Théologie en liberté. En rangeant ma bibliothèque. Radio Alliance Plus, Théologie en liberté, au micro Michel Jass. L'historicité de Jésus, un a priori trop facile des croyants ? Un fait universellement prouvé, comme le fait que la Terre est ronde et que la baleine n'est pas un poisson ? Ou, au contraire, quelque chose de qu'on doit réfléchir, quelque chose de pas très certain ou de compliqué, que les chrétiens ne veulent pas forcément évoquer par peur d'être désécurisés. Une histoire pour commencer avec le sourire. Il y a quelques années, un archéologue découvre les os de Jésus dans sa tombe enfin découverte. Il ne serait donc pas ressuscité. Les chrétiens du groupe d'archéologues, sont en fait troublés, ils ne savent pas s'il faut révéler l'affaire. Mais très vite, la découverte remonte au Vatican. Les prélats au Vatican, eux aussi, sont troublés et ne savent que dire de cette découverte. L'un d'eux, le plus écuménique, dit connaître un exégète de renom en Suisse. Il est protestant, bultmannien, très savant et très critique. On lui téléphone, lui expliquant la découverte du corps et des os de Jésus. Celui-ci, après un silence helvétique, s'exclame « Oh là là ! Alors il a vraiment existé ?» Fin de la petite histoire inventée. Peut-on douter de l'historicité de Jésus ? Oui et non. Bien que l'on puisse trouver l'ouvrage de Bernard Dubourg, L'invention de Jésus, comme intéressant sur plusieurs points, les origines hébraïques ou araméennes des évangiles et les portées symboliques des récits de l'écriture comme des midrashs juifs, contre les affirmations plus connues et plusieurs fois répétées de Michel Onfray, je crois que oui, Jésus a existé, et voudrait m'en expliquer. Bernard Dubourg, non, ne le croit pas. Nadine Charbonnel, professeure de philosophie, non plus. Jésus-Christ est pour elle uniquement une figure littéraire. Jésus-Christ, sublime figure de papier. Un livre curieusement préfacé par Thomas Romer, dont on a dit pourtant dans le protestantisme le plus grand bien, et qui pourrait ressembler au théologien suisse de ma petite histoire de tout à l'heure. Bien sûr, la majorité des livres qui sont consacrés au Jésus de l'histoire aujourd'hui sont au contraire, à mon goût, très affirmatifs et beaucoup trop crédules. Côté catholique, le livre de Petit-Fils, où comme preuve est utilisé le Suaire de Turin. Ou côté évangélique, où tout est écrit et pris à la lettre et pas très fondé. Je parle des recherches sérieuses, prudentes et historiquement travaillées. Et je crois important de pouvoir se pencher vraiment sur la question. Nos contemporains nous le demandent. Non pas des preuves, ils savent bien qu'elles n'existent pas. Non pas des arguments contraignants, ça se saurait. Mais nos raisons pour croire. Croire en Dieu, devant le monde, devant l'histoire, face à la nature, avec le problème du mal, nos arguments pour croire, à cause d'eux ou malgré tout, nos arguments pour croire en Dieu. Et nos arguments pour croire à l'historicité de Jésus, ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, ce qui est solide, ce qui est fragile, franchement, avec le pour et le contre. Parce que beaucoup soupçonnent derrière le discours de l'Église, quelque chose de pas très travaillé. Une certaine malhonnêteté, même. Aujourd'hui, tout le monde critique tout. On est sûr de rien, seulement qu'on est manipulé et que quand quelqu'un dit une chose, ben un autre dira le contraire. Donc un scepticisme qui se généralise avec les peu fiables théories du complot et les théories du complot du complot. Depuis Trump et Poutine, on est dans la post-vérité et dans les fake news. Radio Alliance Plus, Michel Jass au micro, théologie en liberté. Que pouvons-nous dire de l'historicité de Jésus-Christ ? En étant le plus argumenté et sincère possible, car si l'on pousse un peu l'argumentaire de façon intéressée, en fait on gâche tout et on décrédibililise ce que l'on croit démontrer. Hannah Arendt disait « Quand tout le monde nous ment, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Le résultat de ma réflexion n'est pas de tout relativiser. Bien au contraire, la majoration du relativisme me semble un travers regrettable de notre époque. Non pas tout relativiser, mais regarder avec prudence, avec nuance, avec humilité, mais aussi les conclusions, nos conclusions que l'on est en droit d'attendre de nous. Curieusement, le dernier numéro de Histoire, Civilisation, Le Monde de décembre 2023, Jésus, ce que nous savons vraiment, me semble d'un optimisme assez nouveau, intéressant, assez nouveau à notre époque. Ce que nous savons vraiment, l'auteur du dossier, Jean-Marie Salamito, professeur à la Sorbonne, contentera les croyants, les sources pour Jésus, selon lui, sont exceptionnelles et vraiment fiables. On peut se faire une conviction à ce sujet, même en dehors de toute appartenance et influence religieuse. On était habitué plutôt au contraire. Étienne Trocmé, à Strasbourg, en 1971, parlait d'un piétinement des vies de Jésus. Et Daniel Marguerat, plus récemment, subjectivise la recherche historique à ce sujet. Le Jésus dont on parle correspond souvent aux projections des chercheurs qui s'intéressent à lui. Jésus, héros sacrificiel, à l'époque des chevaliers pendant tout le Moyen-Âge. Jésus enseignant, à l'époque de la Réforme et puis de la Contre-Réforme. Jésus romantique au XIXe siècle, Jésus révolutionnaire en 1968, etc., etc. Et il devient l'emblème de toutes les idéologies. Nous devons donc regarder les choses d'un peu plus près. Radio Alliance Plus, au micro Michel Jass, l'historicité de Jésus. Prenons d'abord la méthode hypercritique radicale qui essaya à la fin du XIXe siècle et au début du XXe de nier l'historicité du fondateur du christianisme. En général, c'était des théologiens ultra-libéraux allemands, de purs universitaires qui cherchaient un peu l'originalité, cherchaient à briller. Ou des anticléricaux français, quelquefois des prêtres, et souvent des prêtres défroqués, qui rejoignaient, autant ils avaient été dogmatiques avant, après ils rejoignaient la libre pensée en s'acharnant contre le Jésus du christianisme. Voici leurs arguments. Jésus n'a rien écrit. Et les premiers textes du Nouveau Testament sont ceux de l'apôtre Paul qui nous parle plutôt du Christ céleste, du Christ salvateur, mort et ressuscité, plutôt que du prédicateur galiléen. Paul n'a pas connu le Jésus de l'histoire. Donc ces auteurs, de David Strauss, Bruno Bauer, à Couchou ou Prosper Alfaric, postulent sur une grande mystique syncrétiste au début de notre ère, influencée en particulier par l'Égypte, selon lequel un sauveur, homme primordial, doit mourir et ressusciter. Paul aurait repris ce mythe, mais en l'historicisant un peu et en faisant un Christ juif. Et les évangélistes historisent encore plus ce Christ en faisant un homme concret, existant, prédicateur en Judée-Galilée. La théorie semble convaincante, seulement elle ne tient pas. C'est leur théorie du syncrétisme pré-chrétien qui est un mythe en réalité. Avec les mêmes arguments, certains ont voulu prouver, pour déconsidérer la thèse mythiste, ont voulu prouver la non-existence historique de Napoléon. C'est un peu comme certains historiens juifs ont voulu répondre aux négationnistes de la Shoah en reprenant le même type d'arguments, les arguments des négationnistes, et en disant que, avec la même logique, que le débarquement en Normandie aurait été inventé. Les mythistes, par exemple, déconsidèrent l'histoire de Jésus en disant qu'elle ressemble à celle d'Apollonios de Tyane, Apollonius ou Apollonios de Tyane, philosophe contemporain de Jésus-Christ qui aurait eu des disciples faiseurs de miracles. Mais cela ne marche pas. La comparaison est malhonnête, elle est forcée. La vie d'Apollonios de Tyane provient de Philostrate d'Athènes, dans une œuvre écrite au IIIe siècle dont les manuscrits sont connus seulement au IXe siècle de notre ère. Le plagiat serait plutôt celui d'Apollonios sur le Christ, dans ce sens, plutôt que l'inverse. Nous connaissons de la même façon le livre des paraboles d'Enoch, qui serait une copie des évangiles, au profit d'Enoch pour déconsidérer Jésus-Christ. Et nous connaissons aussi des textes peu nombreux, mais ils existent, des textes hindouistes ou bouddhistes tibétains qui assimilent quelques traits des évangiles pour les assimiler à la vie d'un sage tibétain ou à la vie de Krishna. Ne nous trompons pas, les évangiles sont parmi les textes de l'Antiquité les sources les mieux attestées. 4 000 ou 5 000 manuscrits avec certains papyri très anciens. Un spécialiste des manuscrits anciens anglo-allemand, Carsten Tied, propose à partir des manuscrits grecs trouvés à Qumran de réévaluer les papyri des évangiles et de les dater quelquefois avant 70. Sans chercher à sauver Jésus en enfonçant Bouddha ou Mahomet, prenons d'autres fondateurs de religion. Entre le prophète de l'islam, Mahomet, et les plus anciens textes du Coran, il y a, nous le savons, 2 à 3 siècles. Et entre Bouddha et les suttas ou sutras des deux grandes traditions bouddhistes, il y a 9 à 10 siècles. Eh bien, entre Jésus et les premiers manuscrits des évangiles, il y a 1/2 siècle à 1 siècle maximum. Les évangiles sont les manuscrits donc de l'Antiquité les mieux attestés. Entre la guerre des Gaules de César et le plus ancien manuscrit de la guerre des Gaules, il y a 900 ans. Entre Tite Live et ses premiers manuscrits, 5 siècles. Entre Tacite et ses premiers manuscrits, 9 siècles, et entre Périclès et les manuscrits de Plutarque qui parlent de Périclès, il y a 7 siècles. Alors pourquoi un tel décalage? Parce que avant même la chrétienté, alors donc c'est à partir de la chrétienté, quand l'Empire romain va devenir chrétien, que alors là les manuscrits vont être énormément recopiés, mais Avant même la chrétienté, dans l'Église primitive, les évangiles étaient considérés, étaient compris comme précieux et porteurs de la parole de Dieu. Rien de tel pour les évangiles apocryphes, qui sont tardifs et peu recopiés, mais qui sont devenus un peu à la mode ces derniers temps. Michel Jas, Radio Alliance Plus, l'historicité de Jésus. Je ne cherche pas à déconsidérer les évangiles apocryphes. Je pense par exemple que l'évangile de Thomas est particulièrement intéressant, et c'est certainement l'un des textes les plus anciens. Mais quand même, cela dit, je ne veux pas minimiser les difficultés historiques que nous pouvons avoir en comparant nos quatre évangiles canoniques. Ils se contredisent plusieurs fois dans les détails, dans la chronologie. Nous ne sommes pas sûrs, par exemple, qu'un miracle ne soit pas d'abord une parabole. On parle de mémoire orale. Elle existe, tout en étant quand même fragile. Toute mémoire orale est fragile. Un spécialiste américain du Nouveau Testament, en fait, qui avait été évangélique, et il était déçu de son passé protestant évangélique, il est devenu libre-penseur, et essaie de parler de faux souvenirs pour les évangiles, comme pour les grandes manipulations de l'histoire. Non, cela est impossible. J'ai personnellement beaucoup travaillé la mémoire orale concernant la résistance lors de la dernière guerre, en interrogeant des maquisards et les gens qui ont été dans la résistance avec mon père, et je les ai interrogés longtemps après la mort de mon père. J'ai travaillé aussi la mémoire orale des camisards dans le département du Gard, et la mémoire orale concernant les cathares chez les protestants au XVIe siècle. Eh bien, les souvenirs rapportés dans les évangiles ne peuvent pas avoir été inventés, alors que les évangiles s'adressent à des contemporains. Non pas de faux souvenirs, tout au plus des souvenirs transformés, effectivement. Des souvenirs améliorés peut-être, théologisés. Avons-nous des témoignages concernant Jésus en dehors des évangiles? On cite Tacite, donc cet historien romain qui était natif de Vaison-la-Romaine, à côté de Nîmes. On cite Tacite, Suétone. Leur référence vise plutôt le christianisme primitif que Jésus lui-même. C'est comme pour les références à Jésus dans le Talmud, donc dans le grand commentaire juif, mais qui est assez tardif, mais qui finalement vise plutôt le christianisme primitif que Jésus lui-même. On cite aussi Flavius Joseph, le grand historien juif proche des Romains. Mais le texte de Flavius fut recopié par un chrétien qui a explicité un peu plus la référence au Christ de façon chrétienne. Donc on parle, pour ce texte de Flavius Joseph, d'interpolation, de rajout, qui en fait décrédibilise en fait la source. Seule la version slavone de Flavius Joseph serait intéressante, mais bon, ça devient un peu compliqué. On parle aussi d'une lettre privée d'un grec de l'époque, qui ferait allusion donc au Messie donc d'un texte qui serait peut-être antérieur à 70 et qui ferait allusion à Jésus. Mais certains historiens modernes essaient de prouver qu'elle fut aussi interpolée, mais donc parce que la référence n'est pas neutre. Et ces historiens ont beaucoup écrit pour essayer de décrédibiliser cette lettre grecque. Thank you. Donc, tout n'est pas clair. Les questions historiques sont toujours un peu difficiles, embrouillées, au point que certains théologiens opèrent un repli stratégique que je crois injuste et en fait peu courageux. Ils disent, un, que nous ne connaissons le Christ que par l'Église, les évangiles, ce qui est en partie vrai, mais qui ne me satisfait pas totalement. Deux, qu'il nous faut opérer un saut par la foi. Donc, à partir d'un non-savoir et d'un sentiment du vide, il faut miser, avoir une sorte de pari de la foi, je crois, malgré tout. Non, je crois que les indices en faveur de l'historicité de Jésus sont convergents, même s'il y a des difficultés que nous ne cherchons pas à nier. Les indices en faveur de l'historicité de Jésus sont crédibles, historiquement et rationnellement crédibles. Bien sûr, la recherche intellectuelle évolue comme sur un balancier. Tantôt on voit ce qui peut être dans le sens du doute, tantôt on voit ce qui est plutôt positif. Par exemple, après la guerre de 14, un archéologue a trouvé comme tombe du 1er siècle de notre ère dans la vallée du Cédron à Jérusalem, un ossuaire, donc une tombe après la réduction des corps, présentant les restes d'un Jésus, fils de Joseph. Alors, à l'époque, ça a fait grand bruit dans la presse juive et athée, qui ont proclamé la faillite du christianisme. C'était la grande époque des musées de l'athéisme dans le communisme. Quelques chercheurs catholiques, les pères dominicains de l'école biblique de Jérusalem, ont plus tard multiplié les fouilles et ont trouvé énormément dans la vallée du Cédron à Jérusalem, dans les ossuaires juifs de l'époque du 1er siècle de notre ère, énormément de Jésus, fils de Joseph, et de Joseph, fils de Jésus. Donc les deux noms étaient très courants. Et, argument positif, on trouvait dans les ossuaires juifs du 1er siècle de notre ère à Jérusalem que les gens portaient les noms qui correspondent à ceux mentionnés dans les évangiles. Donc, alors de façon plus ancienne, ils ne portaient pas exactement les mêmes noms. Il y a des évolutions dans la mode autour des noms donnés aux enfants. Mais donc, à cette époque, il y a une confirmation des noms portés dans les évangiles. Je voudrais parler de deux allusions à Jésus en dehors du christianisme. Chez les Samaritains, d'abord, qui dans un texte araméen du 2e au 3e siècle, le Meimar Marka, présente Moïse avec les caractéristiques de Jésus ou du Christ du Nouveau Testament, sans mentionner Jésus. Moïse serait le deuxième Adam, la parole de Dieu. Lors de sa mort, il y aurait eu des cataclysmes. Tremblement de terre, et il aurait vécu une ascension. Ce plagiat confirme qu'il y eut beaucoup de Samaritains touchés par le christianisme ancien, au début de notre ère, et que la référence à Jésus, pour être niée, a été transposée sur Moïse par les Samaritains. Deuxième exemple, les Mandéens, qui se nomment eux-mêmes Nazoréens, Nazoraï, Nazoraïe. Ils sont extrêmement minoritaires, ils vivent isolés au sud de l'Irak et de l'Iran, distincts des musulmans. Ils furent à l'origine des manichéens. Le père de Mani était mandéen. Et c'est par eux, et donc il se nommait, le père de Mani se nommait comme cela, El-Kazaïte, par eux que les manichéens ont conservé un texte judéo-chrétien qui est connu aujourd'hui dans les manuscrits de la Mer Morte. Donc il y a eu un relais dans ces sectes très minoritaires et qui existent encore avec ces mandéens. Eh bien, ces mandéens qui parlaient et qui parlent encore araméen, sans être ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans, ont gardé des mots hébreux dans leurs textes gnostiques, avec des références qui rappellent un peu la Bible, dans ces textes donc un peu bizarres. D'après leur chronologie, ils disent avoir été déportés de la Judée et du Jourdain à l'époque des Parthes et des Romains en 30, ça correspond aux années 30 et 40 de notre ère. Et effectivement, leur alphabet qui correspond à l'alphabet nabatéen du 1er siècle de notre ère, donc le nabatéen c'était dans la région d'Édom ou de Jordanie, cet alphabet fut employé d'un coup au milieu du 1er siècle de notre ère dans cette région du delta de l'Euphrate en Irak-Iran. Donc lors de leur exode, ça confirme leur exode, donc bien dans les années 30 et 40, donc avant la rédaction des évangiles. Eh bien, les mandéens, ces mandéens, nazoréens, el-kazaïtes, ont gardé le souvenir que quelqu'un qui a parlé comme un prophète, qui a été baptisé par Jean dans le Jourdain, et qui, à la fin de sa vie, est monté au ciel. Ils ont gardé le souvenir de ce personnage qu'ils appellent Anosutra, homme glorieux ou fils de l'homme. Ils n'ont pas gardé pour lui le nom de Jésus, mais les mandéens d'aujourd'hui reconnaissent que c'est certainement le même Messie que celui des chrétiens, mais interprété par eux différemment. Oui, Jésus-Christ a existé, les indices sont probants, et cela fait partie d'une des arguments que l'on peut développer. Et nous pouvons revenir aussi, surtout, aux évangiles. À bientôt.
Alliance Plus.